bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe, bien sûr. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir. Bonsoir.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
C'était une stratégie annoncée depuis des semaines. Et bien, ça y est, hier soir, la Russie a lancé son offensive massive dans le Donbass. L'objectif, c'est de faire tomber l'Est de l'Ukraine.
Une bataille cruciale pour Vladimir Poutine. On en parle avec Ulysse Gosset, éditorialiste spécialiste des questions internationales à BFM TV. Mohamed, votre story du jour.
Ça y est, demain soir, le débat tant attendu aura lieu entre Marine Le Pen et le président candidat Emmanuel Macron. Un débat sous tension, millimétré. Je vous emmène ce soir dans les coulisses de l'organisation de ce débat.
Il est question aussi de Marine Le Pen dans votre édito ce soir, Patrick.
Oui, j'ai pris les pieds dans le voile. C'est pourtant une mesure d'interdiction qu'elle proposait depuis 10 ans.
On soumet justement cette question du voile et des contradictions de Marine Le Pen à Philippe Ballard, conseiller régional de l'Île-de-France et porte-parole du Rassemblement national. Il sera présent demain aux côtés de Marine Le Pen lors de ce débat. Évidemment très important. Mathieu, dans le 5 sur 5.
La plateforme de livraison de repas à domicile Deliveroo, condamnée pour travail dissimulé. C'est la première condamnation pénale pour ce genre de plateforme qui pose la question des travailleurs indépendants. Sont-ils en fait des salariés cachés? On va en parler tout à l'heure.
Dans le 5 sur 5 de Mathieu ce soir. Et dans l'œil de Pierre. Pierre.
Cathy, taquité, tic-tac, tic-tac. C'est un refrain éternel et son auteur, Bobby Lapointe, aurait eu 100 ans aujourd'hui. On l'évoquera tout à l'heure.
Hommage ce soir à Bobby Lapointe dans l'œil de Pierre. Hommage aussi à l'aristocratie britannique telle qu'elle est représentée dans cette série géniale Downton Abbey. Pardon, Downton Abbey, voilà, une série formidable dont tes fans, Michelle Obama, les Rolling Stones, George Clooney et nous, à C'est à vous. On en reçoit l'une de ces actrices principales. Elle s'appelle Elizabeth McGovern. Elle interprète Lady Cora Crowley. On adore Lady Cora Crowley. Et Nathalie Baye a décroché un rôle dans Downton Abbey qui devient pour la deuxième fois un film au cinéma. Je sais, c'est long, mais parce que voilà, j'improvise sous vos yeux ce soir. Ce qui n'est pas le cas de notre chef, Alexandre Attab, qui lui ne va pas improviser. Il est fin prêt, chef et cofondateur d'Avocateria. C'est l'Avocado Bar dans le 2e et le 11e arrondissement de Paris. Est-ce que j'ai du pif si je vous dis que vous allez nous servir de l'avocat ce soir?
Eh ben non, c'est bien ça, Babette. Bonjour.
Ah oui, donc j'en ai un peu quand même.
Eh ben dans nos restaurants, en fait, on va fusionner, enfin, on fusionne le healthy, le sain et le gourmand. Et puis, on appelle ça le green porn. Donc, toute cette semaine, on va vous dégoter pas mal de choses sympas. Et ce soir, ce sera l'avocat toast.
Avec un gâteau, un brownie à l'avocat. Alors, ça.
Ce sera demain. Aujourd'hui, c'est un cookie au tahini, pardon.
Aujourd'hui, c'est bouillabaisse.
OK. Une bouillabaisse à l'avocat.
C'est ça.
Merci, chef. À tout à l'heure. J-1 avant le débat télévisé demain soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour préparer ce duel, la candidate du Rassemblement National a décidé de disparaître des médias. Pas un mot, pas une image depuis hier en début d'après-midi après une visite à Saint-Pierre-en-Auge dans le Calvados, une commune de 7500 habitants où elle est arrivée en tête. Au premier tour, Louis Amar et Anaïs Recouli l'ont suivie entre bains de fans et propos de campagne.
Répondez-vous à Emmanuel Macron qui dit que vous vous planquez du peuple?
Tous les gens qui sont là, et sont d'où? Ils sont pas du peuple?
Les Français sont pas trop bêtes. Et à un moment donné, il faut changer quand même un petit peu. On a vu 5 ans Macron, ça n'a rien fait. Donc faut voter quelqu'un d'autre pour voir.
Je suis à fond Marine, j'ai voté en 2017 Marine. Je veux absolument Marine.
C'est pour vous, je me bats. Vous oubliez jamais ça. Hein
non.
Voilà.
On est avec vous, vous êtes
raison.
Jocelyne, maman est en train de parler avec Marine Le Pen. Tu te rends compte? Non mais, papa fait le tour de son cercueil là.
Moi ce que je souhaite, si vous voulez surtout, c'est que le débat se déroule sereinement. J'espère que ce ne sera pas une succession d'invectives, de fake news, d'outrances.
Qu'est-ce que vous répondez à
Madame Le Pen?
Tout. Moi, j'aimerais juste vous poser une question. Comment vous financez vos réformes sociales?
En réalité, vous avez creusé la dette parce que vous avez fait des cadeaux à ceux qui sont les plus riches et vous avez écrasé ceux qui étaient les plus pauvres.
La seule qui pense à notre pouvoir d'achat, c'est Marine.
Est-ce que vous pensez que cette année, elle peut gagner? Et si oui, pourquoi?
Je ne sais pas.
Pourquoi?
Le ras-le-bol. Le ras-le-bol de ce qui se passe.
J'espère que vous allez passer. Franchement, pas trop dehors.
Vive la France!
Bonsoir, bonsoir Philippe Ballard.
Bonsoir.
Porte-parole du Rassemblement national, conseiller régional d'Île-de-France, soutien de Marine Le Pen. Vous serez pas très loin d'elle demain soir, pas très loin du plateau. Elle débattra face à Emmanuel Macron. On y revient tout à l'heure. À 5 jours du deuxième tour, disparaître des radars médiatiques, c'est pas un peu risqué ? Ça veut dire qu'elle n'a plus à convaincre les Français ?
Ouais, depuis septembre, Marine Le Pen est sur le terrain. Elle fait trois déplacements.
Mais c'est là que ça se joue, là. Chaque seconde compte, là.
Je pense que les Français ont bien compris Marine Le Pen était à leur côté. Elle va sur le terrain, leur parle de pouvoir d'achat. Le reportage que vous avez diffusé est assez significatif. Moi, quand je distribue des tracts, on ne me parle que de pouvoir d'achat, que de santé, qui est un thème malheureusement absent, et puis de sécurité également et d'immigration. Donc, les Français ont compris le message. Macron, lui, seulement depuis quoi, une semaine, 15 jours, il commence à aller à la rencontre des Français.
Il serait temps que les communes où il est arrivé en tête.
C'est compliqué parce que Marine Le Pen est arrivée en tête dans 22 000 communes sur 34 000. Donc, fatalement, statistiquement, elle a quand même des chances d'aller dans une commune qui l'a placée en tête. Puis Emmanuel Macron, quand même, dans ses déplacements. Moi, j'ai été vraiment marqué par son meeting de samedi après-midi où il y avait Marseille. Il y avait des invectives. Monsieur Boudjelal, qui parlait avant elle, a eu des propos haineux, voire racistes, parce que les racistes sont pas du tout du côté où l'on pense.
Je parle. Racistes,
oui,
c'est
oui,
à
parce
dire.
Que quand on prend sa déclaration de bout en bout, quand il dit, vous l'avez sans doute vu, les électeurs du Rassemblement national Marine Le Pen sont racistes, les dirigeants sont racistes, mais le début de sa démonstration, il a fait en disant si ses électeurs estiment que la délinquance, ce sont le fait principalement de gens immigrés ou ici de l'immigration, lui, il fait un parallèle avec la génétique. Enfin, quand on en arrive là, reprenez toute la séquence. Et de génétique, il en arrive à ses propos. Donc, ses électeurs sont racistes. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de questions de wokisme, de cancel culture, d'intersectionnalité. Et on est en plein dans ce mouvement. Donc,
ça
en ce moment.
Mentir, c'est si les électeurs du FN pensent effectivement qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, je dis que ce sont des racistes.
Oui, mais
c'est
avant, il a une démonstration. Non, mais il faut la reprendre. Écoutez, pas tout, visiblement, parce qu'avant, il y a toute une démonstration sur... sa démonstration sur la génétique.
Bon,
reprenez,
compte, hein.
Vérifiez ce que je dis.
Une campagne où, sur le terrain, donc, certaines parties de son programme lui valent des interpellations de Français et de Françaises, comme notamment sur la question du port du voile. C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Marine Le Pen n'assume plus de vouloir interdire complètement le port du voile.
Oui, c'est le revirement le plus soudain, le plus spectaculaire de toute l'histoire des entre-deux-tours présidentiels. S'agissant non pas d'une promesse improvisée sur un coin de table, mais d'une mesure que Marine Le Pen porte depuis 10 ans, 2012, université d'été du Front National à la Baule. À l'époque, elle dit vouloir interdire dans la rue tous les signes religieux et donc à la fois le voile et la kippa.
Je demande à nos compatriotes juifs ce petit effort, ce petit sacrifice sûrement, mais qui permet une égalité entre les exigences que l'on demande aux uns et aux autres. Vous imaginez ce que l'on aurait dit si jamais j'avais demandé à ce que cette interdiction ne frappe que le voile. Évidemment, immédiatement, j'aurais été probablement brûlée en place de grève pour islamophobie.
Oui, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Alors, on retrouve ensuite la proposition dans son programme présidentiel de 2017, mais elle concède que les petites kippas pourraient être autorisées. 2022, plus question de kippa, c'est le voile seul qui est visé. Marine Le Pen le considère comme un uniforme islamiste. Et puis soudain, à 8 jours du second tour, Fatima est arrivée et elle a tout fait dérailler.
Fatima ?
Oui, Fatima Ben Malek, grand-mère de 70 ans d'origine algérienne, qui a croisé la route de Marine Le Pen. On la voit là vendredi matin sur le marché de Pertuis dans le Vaucluse avec son voile blanc en dentelle. Fatima l'a interpellée en lui disant simplement devant les caméras, pourquoi voulez-vous l'interdire ? Mon voile, c'est un signe de grand-mère. Brusque retour du réel. 4 jours seulement séparent ces deux déclarations de Marine Le Pen la semaine dernière.
Nous faisons une loi avec une interdiction de port du voile dans l'espace public. Si vous ne respectez pas la loi, eh bien vous avez une amende. C'est aussi simple que cela. Et croyez-moi, ça ne posera pas plus de difficultés que cela.
Ce sont des problèmes qui sont des problèmes complexes. J'en suis parfaitement consciente de cela. Hein. Je ne suis pas, obtus. De toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui aura lieu dans le débat.
Et voilà comment un problème simple, pendant 10 ans, on fait une loi, on met des amendes, devient subitement complexe à une semaine du second tour. Marine Le Pen n'avait-elle donc jamais, durant ces 10 années, échangé avec une grand-mère, avec une femme voilée ?
Elle n'a pas tort de dire que de toute façon, si elle devient présidente, cela sera au Parlement d'en discuter.
Oui, comme l'ensemble de son projet, mais le paradoxe, c'est qu'on parle là de la partie la plus précise et la plus détaillée de son programme, lequel comporte une loi déjà rédigée, un texte clé en main qui ne vise rien moins qu'à éradiquer l'islamisme. 40 articles. Le premier article tente de définir l'idéologie islamiste, incompatibilité radicale avec nos lois, refus de respecter la laïcité, etc. Les 39 autres l'interdisent et la sanctionnent partout où c'est possible, dans la rue, dans les journaux, les livres, les publications jeunesse, les fonds de bibliothèque, le cinéma, censure de toute apologie de l'islamisme et même d'une quelconque complaisance dans son évocation. Je vous laisse imaginer comment mesurer le degré de complaisance et peut-être qu'en disant cela, cet édito pourrait être taxé de complaisance. Quoi qu'il en soit, toute personne qui manifeste ou diffuse cette idéologie peut être licenciée, privée de ses droits sociaux, déchue de sa nationalité française. L'article 28 prévoit l'interdiction de séjour des ressortissants d'un État appelant à la haine de la France, donc les Turcs et les Iraniens dehors. L'article 12 nous dit que l'enseignement public devra faire naître et affermir les sentiments patriotiques et la conscience de l'unité nationale. Et c'est au milieu de tout ça que l'article 10 prévoit l'interdiction des signes et tenues islamistes, dont le voile ferait partie, d'après Marine Le Pen, ou faisait partie jusqu'à l'irruption de Fatima. Le réel, c'est quand on se cogne, disait Lacan.
Marine Le Pen n'avait donc jamais échangé avec une grand-mère qui porte le voile, qui a choisi de porter le voile ?
Si, alors quand même entre 2012 et 2022, par définition, il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, on peut dire que le communautarisme et l'islamisme dans certains quartiers, tout ça se l'est développé. Cette grand-mère qui dit « j'aime la France », et on a tout lieu de le croire, vous savez, en amour, il y a des preuves d'amour. Et je pense qu'une belle preuve d'amour, c'est de, quand on arrive d'un pays étranger, qu'on arrive sur le territoire national, de s'assimiler. Et une preuve de l'assimilation, ça peut être de respecter les us et coutumes et les lois qui viendront.
Ça veut dire qu'elle aurait dû l'enlever depuis longtemps.
Ben, dans la sphère privée, on fait évidemment,
on fait ce que,
non mais il y aura une loi de voter, donc ça sera pas effectivement la même situation que maintenant. Donc dans la sphère privée, évidemment qu'on pratique sa religion, ça me pose même pas de questions. On peut être français. Être français, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est pas une histoire de religion. Le tout, c'est de pas brandir ce foulard. Ce voile, comme un étendard, parce qu'il n'y a pas que le voile, il y a aussi les plages horaires réservées dans les piscines, le burkini, les repas halal exigés dans les cantines. Et tout cela, c'est du communautarisme à l'état pur, et ça divise, ça fracture, ça fragmente le pays qui n'en a pas besoin. C'est un signal envoyé aussi à tous ceux qui viendront en France. On va évidemment restreindre drastiquement l'immigration, mais la France, c'est pas open bar.
À quelle échéance Fatima devra enlever son voile sous peine d'une amende?
Si vous avez écouté Jordan Bardella ce matin qui était sur une chaîne d'info, durant le quinquennat, la loi sera votée et il y aura effectivement une amende, mais on va faire ça intelligemment. C'est-à-dire il y aura de la pédagogie et il y aura de la répression. Vous savez, c'est comme les ceintures de sécurité. On fait partie d'une génération. On pouvait fumer au restaurant, dans les trains, dans les avions.
Oui, mais ça sauve les vies, la ceinture de sécurité.
Ça s'est pas fait du jour au lendemain.
Ça sauve les vies.
Vous savez, l'islamisme, ça peut emporter des vies.
Ouais. Dans la profession de foi soumise aux électeurs du second tour, que j'ai consulté tout à l'heure, Marine Le Pen fait un dépliant, il y a une double page sur ce que je ferai dans les 100 jours. Mmh. Et dans les 100 jours, il y a l'examen de ce projet de loi.
C'est une proposition de loi, là.
Oui,
c'est déposé par les députés.
C'est le point 2.
C'est un projet de loi, donc.
C'est le point 2 de votre programme, du programme de Marine Le Pen. Elle a promis de le présenter dans les 100 jours. Aujourd'hui, elle dit, ce sera à la fin du quinquennat. C'est plus la
discussion
priorité.
Discussion à l'Assemblée nationale, vote, on publie les décrets et on commence l'application. Donc là, on peut jouer 100 jours, 3 mois, 6 mois. Bon. Oui. À la fin du quinquennat, et sans doute avant, cette loi sera votée et appliquée.
Ah bon.
Mais non, c'est pas
c'est moins urgent, c'est moins prioritaire.
Ça sera fait d'ici 2 ans, 1 an et demi. Il y a d'autres choses, vous savez, il y a le pouvoir d'achat, la sécurité.
Ça sera fait avec ça.
Parce que dans tout ce que vous avez...
la sévérité de
Oui, parce que c'est pas de la sévérité. Je vous ai écouté, effectivement, vous faites la confusion, en fait, entre musulmans et islamistes. C'est pas la même chose. Si. Parce qu'on peut très bien, je l'ai dit, on peut très bien être français musulman, évidemment qu'il n'y a aucun problème. Mais il y en a qui choisissent la voie de l'islamisme. Et là, on tombe sous le coup de tout ce qui est écrit dans ces textes de loi.
Ce sont des musulmanes, ce sont des...
Non, mais elles envoient un signal. Alors, quand Marine Le Pen dit c'est complexe, effectivement, entre une grand-mère, moi j'en vois, je prends les transports en commun, qui a 70, 60... Non, c'est pas l'âge. Mais c'est tout simplement ce que véhicule le fait d'une jeune femme de 20 ans qui ostensiblement porte un voile. Moi, j'en ai croisé une, c'était assez drôle. Enfin, drôle, non, c'était pas drôle. Dans le RER, il y avait une grand-mère de 60 disons, enfin à peu près, qui portait un voile, qui portait, et elle avait peut-être fait les ménages toute sa vie. Bon, voilà, c'était l'apaisement. Et puis, il y avait une jeune fille qui soutenait du regard, parce que j'ai regardé, et elle me soutenait, elle me défiait, en fait. Et c'est pas la même chose. Vous savez, je vais vous dire, moi je vais...
Donc vous allez sanctionner selon les regards des gens? Comment
non,
vous
ce pas des regards, on va faire preuve d'intelligence. Non, mais il y aura une loi, et pour une fois, bah, en France, la loi sera respectée. Ça a peut-être changé, parce qu'il y a des lois de voter qui ne sont pas respectées.
Robert
il y en a
Ménard,
des dizaines.
De Béziers vous dit depuis des mois que c'est inapplicable.
Oui, mais Robert Ménard, il dit ce qu'il veut. Voilà.
Ah, il est maire d'une grande ville.
Oui, bon, d'accord. Puis il y en a d'autres qui lui disent que c'est applicable.
Il faut passer au détecteur de l'idéologie islamiste. C'est ça
non,
qui
mais
va
c'est
être
un signe,
à
c'est tout simplement un signal. C'est un
mais
signal.
Comment vous
c'est un étendard.
Si le signal
c'est
est
un
bon
étendard.
Ou mauvais.
Mais non, mais ça sera interdit, oui, pour tout le monde à l'arrivée. Enfin, voilà, ça sera interdit pour tout le monde à l'arrivée. Quand Marine Le Pen dit complexe, effectivement, non.
Que portent parfois les musulmans?
Jordan Bardella a été questionné ce matin. On ne va pas demander à tout le monde de se raser. Mais on est quand même... À Noël, moi, j'ai envie d'aller un peu prendre le soleil. Je vais aller passer Noël en Arabie Saoudite. Et puis, comme je vais aller à la messe de minuit, et puis je vais me faire un bon petit repas avec une bonne bouteille de vin et puis un rôti de porc. Bah, c'est ballot, hein, mais ça, je ne vais pas pouvoir le faire. Hein. Bah non, parce qu'il n'y a pas d'église. Et puis, il n'y a pas de vin.
C'est pas
et puis, je
ne pourrais
pas manger...
Saoudite.
Ah oui, d'accord. Oui, oui, non, mais entièrement d'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu faible en France? On peut se poser la question. On se laisse manger, grignoter par des islamistes, le communautarisme qui verse vers l'islamisme. Donc on stoppe
modèle,
le mouvement.
Le modèle, c'est l'Arabie Saoudite.
Non, mais
si
ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis tout simplement qu'il y a des libertés que l'on a en France qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays qui financent et qui aident l'islamisme.
On ne les retrouve pas en Arabie Saoudite, on les retrouve en France, on s'en félicite de les retrouver en France, ces libertés.
Oui,
c'est ça que
tout
vous comparez par rapport à l'absence de liberté.
Non, mais je vous dis, je fais un comparatif. Un musulman en France, il peut aller à la mosquée, il peut manger halal. Voilà, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand on va dans des pays qui vivent sous un islam rigoriste, on ne peut pas.
Il ne pourra pas exactement manger halal comme avant, si Marine Le Pen est
alors,
présidente.
Ça, c'est très clair.
Il faudra qu'il achète de la viande halal importée.
Importée, parce qu'on est contre la souffrance animale. Alors, on peut discuter, on peut étourdir les animaux avant de les égorger vivants. Voilà, on est contre la souffrance animale et on verra avec les responsables.
Vous êtes contre la souffrance animale, mais pour la souveraineté nationale. Donc ça veut dire que vous allez pousser des millions de Français, de confession juive ou musulmane, à acheter leur viande à l'étranger.
Ben, ça se fait déjà dans beaucoup de pays. C'est en Belgique, l'abattage rituel est interdit. Voilà. Et il n'y a pas que la Belgique, il y a d'autres pays de l'Union européenne. D'autres pays de l'Union européenne. Voilà, on n'est pas hors sol.
Si Marine Le Pen est élue, vous souhaitez instaurer la priorité nationale pour le versement des aides sociales, pour l'emploi et pour l'attribution des logements sociaux. Concrètement, pour ces logements sociaux, que se passera-t-il pour les étrangers qui vivent légalement en France et qui arriveront en fin de bail? Il ne sera pas renouvelé?
Alors, en fin de bail, donc parce qu'il y a des... En fait, ce qui est terrible, je vais répondre à votre question, mais moi, j'ai fait une autre vie avant. Ouais, j'étais journaliste, moi, j'ai vécu plusieurs campagnes présidentielles de l'autre côté du miroir. Je la vis maintenant de l'autre côté et on passe notre temps à répondre à des fake news, à des invectives.
Ce que j'ai dit,
et
c'est une
parle...
fake news.
Non, je d'accord. dis globalement. Moi, je suis déçu par cette campagne électorale. D'accord. Voilà, parce qu'on ne parle pas des projets. Emmanuel Macron est rentré en campagne il y a une dizaine de jours. Mm-hmm. On n'a pas du tout parlé de son bilan qui est catastrophique, y compris sur le plan économique, parce que le Mozart de la finance, il a dû perdre ses partitions. Voilà, moi, je suis extrêmement déçu. Pour répondre à votre question précisément...
Ça, j'ai effectivement entendu cette expression dans la bouche de Jordan Bardella ce matin. Mozart a perdu ses partitions.
Ah oui, d'accord. Bon, on s'en reprend tous, alors.
J'ai
on va faire des copyrights, alors. On va savoir qui touche les royalties. Donc, pour répondre à votre question, c'est à la fin du bac, qu'effectivement, quand il y a deux dossiers sur la table, eh bien, il y aura une priorité accordée
donc,
aux Français.
Ils seront mis dehors, ceux dont le bail arrivera
le bail
à terme.
Le bail ne sera pas renouvelé.
Voilà,
renouvelé.
D'accord. Au risque de les obliger à chercher dans le privé ce qu'ils n'auront peut-être pas les moyens de payer.
Il y a des Français qui pourraient avoir droit au social et qui cherchent dans le privé parce qu'ils n'ont pas les moyens de se priver, donc ils sont à la rue. Donc on donne la priorité aux Français, oui.
Ils sont là légalement, mais ils seront mis dehors. On est bien d'accord.
À la fin du bail. Bah oui, mais il y a des Français qui vivent dehors, qui vivent dans des tentes, qui vivent dans des voitures. Vous savez, il y a même des policiers, moi j'ai appris ça dernièrement, qui travaillent en Île-de-France, qui vivent et qui dorment dans leur voiture. Bon, voilà. Bah, eux auront la priorité au logement social.
Ce matin, Jean Castex était au micro de France Inter et avec coup de main de Jean de La Fontaine, le Premier ministre en a appelé à une fable pour évoquer Marine Le Pen.
J'ai entendu.
Vous connaissez les femmes de La Fontaine, il y en a une, je vous le dis, je la vois apparaître avec ses chats, voyez, pour se rendre aimable et sympathique. Et ça me rappelle une femme, je ne sais pas, les merveilleuses, elles sont toujours d'actualité, ces femmes, qui s'appellent le chat, la belette et le petit lapin. Là, il y a un chat qui s'appelle Ramina Grobis, un chat, dit La Fontaine, faisant la chatte-mite. Ce chat, hein, il est tout doux, tout gentil. Et quand ce pauvre petit lapin et cette pauvre belette arrivent jusqu'à lui, il les croque, il les mange. Bon, eh ben, c'est ça. Derrière Marine, il y a toujours un Le Pen. Il faut quand même le rappeler.
En fait, je ne sais pas si... c'est pas Le Pen qu'on cache, mais parce que la candidate revendiquait plus Marine en 2012, et aujourd'hui c'est Marine Le Pen. Mais en fait, ce que veut dire le Premier ministre, c'est qu'il y a certains éléments du programme qui sont laissés dans l'ombre par rapport au pouvoir d'achat, évidemment, et à la sécurité.
C'est-à-dire, le pouvoir d'achat, on le laisse dans l'ombre ?
Non, non, au contraire.
Ah oui, bah oui, on le met en avant, parce que c'est quand même la première préoccupation des Français.
D'autres aspects du programme, ce qu'on a pu évoquer à l'instant, qui sont mis dans l'ombre. C'est ça qu'il a voulu. C'est la parabole que le Premier ministre a voulu illustrer.
Mais ça rejoint ce que je disais à l'instant. Moi, je suis déçu par le niveau de la campagne. Enfin, quand on entend un Premier ministre qui en est là, quand même, on pourrait parler des problèmes de fond. Voilà, on parle du pouvoir d'achat. Enfin, faut voir. Moi, je distribue des tracts dans l'Oise. Je vais raconter une histoire très rapidement. Il y avait trois jeunes retraités qui ont pris notre tract sur le pouvoir d'achat. Et j'ai écouté leur conversation. Il y en a une qui disait à l'autre, moi, pour économiser un peu d'énergie, maintenant, vous savez, je fais ma vaisselle à l'eau froide. Et je me suis dit, en 2022, et les gens en sont à s'échanger des conseils, je fais ma vaisselle à l'eau froide. Et elle disait, mais ça dégraisse moins bien, mais bon, voilà, ça me permet d'économiser un peu d'énergie. Voilà, bilan d'Emmanuel Macron au bout de 5 ans, son quinquennat. Voilà, c'est merveilleux, super. Une dette qui a explosé, 600 milliards d'euros.
Notamment à cause du quoi qu'il en coûte. Et non, d'ailleurs, il y a une planification pour le remboursement de la dette.
Non, mais attendez. Non, mais juste 600 milliards d'euros. Mais la dette Covid, comme on l'appelle, c'est 185 milliards. Source, rapport de la Cour des comptes. C'est
vous,
pas
vous
nous qui l'avançons.
Le reste,
c'est de la mauvaise dépense.
Avec le programme de Marine Le Pen.
Oui, parce qu'il y a des économies. 68 milliards d'économies, 68 milliards de dépenses. C'est chiffré. J'incite tout le monde à aller sur le site Aime la France. Il y a tous les livrets thématiques. Il y a tout le projet de Marine Le Pen. Toutes les lois donc, qui seront présentées et votées quand on aura une majorité à l'Assemblée nationale. Et tout est chiffré.
En attendant, Marine Le Pen et ses proches sont accusés par l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, d'avoir détourné plus de 600 000 euros d'argent public européen au cours de leur mandat d'eurodéputé. C'est un nouveau rapport qui a été remis en mars à la justice française. Alors Marine Le Pen a dénoncé un coup fourré de l'Union européenne à quelques jours du second tour. Vous accusez donc l'Union européenne de vouloir se mêler du choix des Français, d'influencer cette élection ?
Cet organisme, déjà, on a déposé deux plaintes. Il y aura peut-être une troisième plainte de déposer. Toutes ces informations, vous les avez parce que ça fuitait par Mediapart.
Oui.
Alors, pour mémoire, Mediapart a soutenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Et Mediapart avait fait la même chose en 2017.
Mediapart publie des extraits de documents.
Mais alors, ce qui est curieux, c'est que Marine Le Pen n'a eu aucun extrait. Aucune page, aucun document. Bon. Mediapart les a sur son bureau, visiblement, donc très bien.
Ça détourne le problème, le fait est que.
Non, ça ne détourne pas le problème, c'est ce qu'on appelle les boucs puantes, voilà. Tout simplement. Et Marine Le Pen et les personnes concernées démontrent tout à fait ces allégations.
Mais donc vous dites que l'Union européenne se mêle là des choix des Français
ou... Non, mais cet organisme, on le sait. Enfin, encore une fois, deux plaintes ont été déposées par Marine Le Pen contre cet organisme, perquisition de nuit dans ses bureaux, ce qui est interdit. Et j'ai oublié le motif de la,
donc vous demandez
de la deuxième plainte.
À la justice française, finalement, d'agir au plus vite pour éclaircir.
De faire son travail. Mais alors, la justice française, par exemple, Parquet national financier sur McKinsey, commission d'enquête parlementaire, transmis au PNF. Pour François Fillon, ils ont été très rapides. Puis il a réagi. Et là, il doit faire un gros dodo, le PNF. Là. Il n'y a plus de nouvelles. McKinsey.
En tout cas, le Sénat réagit en lançant cette commission parlementaire.
Oui, d'accord. Une enquête a été ouverte. Mais une enquête, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Pour François Fillon, hein, ça a été très rapide. On s'en souvient tous, quand même. Il y a peut-être deux poids, deux mesures.
Et là, vous soupçonnez quoi pour McKinsey ?
Il y a le dossier McKinsey et puis il y a le travail, quand même, des magistrats du Parquet national financier. Des fois, ils sont extrêmement rapides. Et des fois, je disais, ils font un gros dodo, disons qu'ils ne sont pas très, très rapides.
Mais vous soupçonnez quoi, en l'occurrence ?
Ça vous interroge pas quand même que parfois ils peuvent aller très vite comme en janvier 2017.
Non, on parle de McKinsey.
Parle de fiscalité là.
De McKinsey.
Oui.
C'est de l'argent public qui arrive dans une entreprise qui paye pas ses impôts en France.
Oui.
Déjà rien que ça.
Mais c'est un enrichissement personnel d'Emmanuel Macron. Parce que c'est ça dont on parlait.
McKinsey,
François Fillon.
Vous faites le parallèle avec Philly.
Alors après, McKinsey, il y a des gens de McKinsey qui ont fait la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, bénévolement d'ailleurs, et qui après ont conseillé le gouvernement, notamment sur la campagne de vaccination. Pas que, mais ce sont des milliards d'euros qui ont été versés à McKinsey qui payent ses salariés. Des salariés qui ont peut-être fait...
Des milliards.
Non, vérifier des
chiffres d'affaires de McKinsey en France, c'est 350 millions d'euros par an.
Sur plusieurs années, ce sont des milliards qui ont été versés à McKinsey, qui payent évidemment ses salariés, et certains, bénévolement, avaient conseillé Emmanuel Macron en 2017.
Avec l'argent que vous avez sans doute capté du Parlement européen. Ça, c'est des milliards.
Non, mais des milliards.
C'est pas jugé. C'est déjà pas mal.
Il n'y a aucune condamnation et l'affaire n'est toujours pas jugée. Et on conteste les faits. Voilà.
Au moins, McKinsey, il y a au moins des mises en examen.
McKinsey, vous m'accorderez, Patrick Cohen, que c'est établi. Ils ont eu des contrats. Ils ont été payés. Les contrats, non, enfin, je sais pas.
Et alors, qu'est-ce qui est établi ?
On zappe la haute fonction publique comme si on n'avait pas de fonctionnaires français. On voit très bien ce qui se trame dans la tête d'Emmanuel Macron. Lui, c'est toujours la start-up nation, hein, la nation
au business. Non, mais c'est l'usage du gouvernement.
C'est pas illégal.
Non,
mais
il a. C'est bien avant Emmanuel Macron.
C'est pas illégal. On peut peut-être se renseigner quand même avant un appel d'offres. Est-ce que ces entreprises payent leurs impôts en France ? La réponse est non. Donc de l'argent public qui arrive dans des entreprises situées à l'étranger qui ne payent pas d'impôts en France, je pense que en distribuant les tracts, moi, parce que j'aime beaucoup le terrain, je vais voir les commerçants et ils m'en parlent de cette affaire parce que ça les a beaucoup choqués. Eux, ce qu'ils vendent, ils l'ont produit et ils payent des impôts là-dessus. Tout est clair, tout est nickel. Oui. McKinsey accorde l'argent public à une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France. Franchement, il fallait l'imaginer. Hein.
Vous restez avec nous, on va parler du débat avec Mohamed Bouafsi. Mohamed, Léa Salamé, Gilles Boulot pour arbitrer le débat Marine Le Pen-Emmanuel Macron, un débat où rien n'est laissé au hasard.
Oui, c'est ici à la Plaine Saint-Denis qu'aura lieu le débat du second tour entre le président candidat Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Tout est réglé au millimètre, un studio à 19 degrés, les candidats qui seront à 2,50 m l'un de l'autre et à 4 m avec les présentateurs, Gilles Boulot pour TF1 et Léa Salamé pour France Télévisions seront à l'écran uniquement quand ils parleront pour se focaliser sur les protagonistes. Pour présenter ce débat, le Rassemblement national avait une liste noire. L'hypothèse Anne-Sophie Lapix a été rejetée par le camp de Marine Le Pen. Hier, sur ce plateau, Emmanuel Macron a confié ne pas avoir récusé de journalistes.
Les deux candidats ont été consultés, mais pour ma part, je n'ai récusé aucun journaliste ni aucun réalisateur.
C'est un peu la convention de consulter les candidats. Est-ce que c'est une convention qu'il faut maintenir à l'avenir ? Est-ce que vraiment...
C'est-à-dire que ça marche s'il n'y a pas une liste rouge trop longue. D'ailleurs, je n'ai récusé aucune et aucun confrère à vous. Je suis resté dans la position qui me semble être celle qu'on doit avoir, c'est-à-dire que les deux principales chaînes, une du secteur public, une du secteur privé, proposent. Je considère que ce sont des professionnels mérités et reconnus, et la même chose pour les réalisateurs.
Plusieurs tirages au sort ont eu lieu aujourd'hui pour connaître le déroulé de ce débat. Marine Le Pen prendra la parole en premier. Le tirage au sort a également désigné le pouvoir d'achat comme premier thème traité demain soir. Et n'y voyez pas de signe politique, mais contrairement à 2017, Emmanuel Macron se tiendra à gauche, tandis que Marine Le Pen sera à droite. Décision encore une fois du tirage au sort. Comme Anne-Sophie Lapix, le célèbre réalisateur de télévision Tristan Carnet a lui aussi été récusé par le Rassemblement national. Son tort, en 2017, il avait filmé des plans de coupe, ces fameux plans où l'on voit des réactions du visage, des images qui montraient une Marine Le Pen hésitante, cherchant des informations dans ses fiches ou encore ne pouvant pas cacher son agacement.
La réalisation naturelle d'un débat, c'est ce que regarderait un téléspectateur s'il était en plateau. Et je pense que naturellement, si vous faites venir quelqu'un sur un plateau, son regard va se porter d'un candidat à l'autre assez naturellement, mais pas forcément pour être sur celui qui parle. Elle dit qu'on la voit regarder ses notes, c'est vrai, on la voit regarder ses notes, mais à un moment où elle parle. Et donc, ça, naturellement, la caméra était sur elle, et donc elle regarde ses notes, mais au moment où elle parle, donc elle sait qu'elle est filmée. Le fait de pouvoir voir un candidat silencieux, qui acquiesce, qui a une moue dubitative, ou qui au contraire est un peu enragé, raconte quelque chose aux téléspectateurs.
Demain, aux commandes de ce débat, on retrouvera Didier Froli. En 2007, le réalisateur avait conseillé Nicolas Sarkozy pour son débat face à Ségolène Royal. Didier Froli ne pourra utiliser que les plans de coupe où l'un des candidats regarde son adversaire. Le RN a insisté sur cette condition pour ne pas revivre la mauvaise expérience de 2017.
Ces débats le retour, ça me fait penser au Rocky, etc. C'est un peu ça. Les plans de coupe seront comptabilisés. Donc je peux très bien en passer 100 et 100, comme 10 et 10, tout dépend. Il y en a un qui parle, je reste sur lui, et j'espère que ça sera validé, il y aura des plans de coupe, mais qui seront saupoudrés. Ce ne sera pas la pêche aux réactions, ça sera de temps en temps, parce qu'on est, là pour mettre en valeur le fond qui exprime chaque candidat.
Philippe Ballard, Marine Le Pen avait raté son débat en 2017. Elle a confié avoir regretté d'avoir été aussi agressive, d'avoir plus attaqué son adversaire que défendu son propre programme. Elle va changer de stratégie demain ?
Alors déjà, je voudrais vous reprendre parce que ce n'est pas la candidate d'extrême droite qui sera face à Emmanuel Macron demain. Parce que l'extrême droite, c'est une définition précise quand même. On réfute le régime parlementaire.
Vous réfutez le thème...
D'extrême droite, oui, oui, tout à fait. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'un parti d'extrême droite réfute le régime parlementaire.
J'invite non, les spectateurs à lire
attendez,
ça.
Attendez. Oui, non, mais c'est pour se prémunir de l'islamisme.
Et essayer de
Marine
et
Le Pen a 11 millions de voix en 2017. On se retrouve avec 7 députés. Est-ce que vous avez eu une marche sur l'Assemblée nationale ? Est-ce que le 6 février 34 s'est reproduit ? Non. Un parti d'extrême droite, c'est un parti qui pratique la violence. Est-ce qu'on pratique la violence ? Nos militants sont victimes de violences. C'est un parti qui refuse le débat. Est-ce que nous refusons le débat ? Vous recevez des représentants du RN souvent sur ce plateau, très bien. J'espère que je ne serai pas le dernier. Et vous en recevrez d'autres. Donc ce n'est pas la représentante d'un parti d'extrême droite. Et ce qui est terrible dans cette campagne, c'est qu'on passe son temps à déminer tout ce qu'on nous balance à la figure.
En tout cas, vous reprenez juste le thème d'extrême droite, mais vous n'avez pas répondu à mes questions.
Alors,
est-ce qu'elle va changer de stratégie ? Et pour information, Marine Le Pen a refusé le débat puisqu'elle ne vient pas sur ce plateau. Mais juste, est-ce que vous pouvez revenir sur ma question ?
Emmanuel Macron ne va pas dans un certain nombre d'émissions. Vous savez, Cyril Hanouna, il a refusé d'y aller. Du coup,
Marine Le Pen sur ma question, est-ce qu'elle va changer de stratégie ?
Non, mais ça, vous le verrez demain soir. Alors, non, mais je vais. Ce qui est terrible, parce que ce qui était dit, là, c'est un peu. Ça ne sera pas un match de boxe. Marine Le Pen souhaite un débat apaisé. Voilà. Ça sera projet contre projet. Donc,
contrairement
bilan,
à 2017.
Plus bilan.
Ouais. Mais on est en 2017. Donc, vous répondez à la question de Mohamed.
Donc, voilà, ça sera présentation du projet. Apaisée. Elle veut une France apaisée après un quinquennat qui a divisé, clivé, mis le feu aux poudres. On se demande même si Emmanuel Macron ne prenait pas un savant plaisir. Donc voilà, projet contre projet plus, parce que c'est la différence par rapport à 2017. Bilan. Là, il y a un bilan pour Emmanuel Macron. Il n'en a pas parlé. Pas du tout, parce qu'il est catastrophique. On parlait de l'économie tout à l'heure, en point de vue sécurité. Enfin, il y a une agression gratuite toutes les 40 secondes en France. On peut se faire
chômage. Le
chômage qui a jamais. Alors, contrairement
jamais
à ce que dit.
Aussi haut, hein.
Jamais. Alors, je vais vous dire. Alors, je ne savais pas qu'on allait en parler, mais justement, tout à l'heure, ouais, ça, c'est la courbe de Pôle emploi. Chiffre de la DARES. Donc, quand Emmanuel Macron dit jamais le chômage n'a été aussi bas, catégorie A, et j'invite tous ceux qui nous regardent à aller sur le site de Pôle emploi, regarde les courbes. Ça, c'est A, B et C. A, ce sont les gens qui n'ont aucune activité. B et C, ceux qui travaillent.
On ne voit pas grand-chose,
Non, mais alors, je vais vous le dire. Alors, on est à 5 400 000, d'accord. Et il y a 15 ans, on était à 3 200 000. Alors maintenant, il va falloir nous expliquer.
N'a jamais été aussi bas depuis 15 ans. Personne n'a dit autre chose que ça.
Si, Emmanuel Macron dit jamais le chômage n'a été aussi bas depuis 15 ans. Fake news. Voilà. Et nous, on passe notre temps alors à déminer, mais ça alimente le... Jamais... quand vous regardez la courbe, pardon, quand on est à 3 200 000... c'est les chiffres de la DARES de Pôle emploi. Alors vous pouvez dire, c'est défiant, ils sont nuls. Non. A, B et C.
Oui, y compris les gens en activité partielle, oui, c'est ça.
Voilà. A, B et C.
Toutes les catégories.
Et là, c'est le catégorie A. Celle d'en bas. Et vous allez me dire quel est le chômage
et à la recherche à l'instant T.
Voilà.
Là, notre réalisateur a tenté un plan de coupe sur votre graphique. Et là, pour le coup.
Si vous avez le temps d'ici la fin de l'émission, je peux vous le refaire, si ça peut vous arranger.
OK, on a fait
notre maximum. Débat serein, c'est en tout cas le vœu de Marine Le Pen, demain, où on va pouvoir tout mettre sur la table et échanger sereinement, calmement, ce qui n'a pas été le cas dans le pays depuis 5 ans.
Merci beaucoup, Mohamed. Émilie, la bataille du Donbass a démarré hier en Ukraine.
La Russie avait annoncé qu'elle allait concentrer ses forces sur l'est de l'Ukraine le 25 mars dernier. Depuis, l'Ukraine retenait son souffle jusqu'à hier soir. Des dizaines de frappes menées dans le Donbass selon l'armée russe. Aucune ville de la région du Donetsk ne sera épargnée. Information confirmée par le président ukrainien Zelensky.
Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити.
В Face à sa détermination, l'ultimatum de l'armée russe, dans un communiqué, elle appelle les derniers résistants de la région de Donetsk et particulièrement de Mariupol à rendre les armes s'ils veulent la vie sauve. Peu de temps après, le ministre de la Défense russe a accusé les États-Unis et l'Occident de tout faire pour retarder la guerre.
Соединенные Штаты Америки и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерение провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца.
Bonsoir Élise Gosset, éditorialiste, spécialiste des questions internationales à BFM TV. Merci de votre présence ce soir. Cette bataille du Donbass, elle est cruciale pour Vladimir Poutine. L'objectif, c'est de gagner et vite.
C'est au moins d'avoir une victoire, effectivement, rapidement, parce que pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'opération militaire spéciale, entre guillemets, puisqu'il ne parle pas de guerre, ça a été plutôt un fiasco. Et pour moi, l'image du fiasco, c'est l'image du croiseur Moskva qui a sombré en mer Noire, qui a été touché donc, par deux missiles ukrainiens. Et ça m'a rappelé, on voit cette image donc sur l'écran, ça m'a rappelé, vous savez, quand Poutine arrive au pouvoir dans les années 2000, il y a eu un autre incident comme ça, c'était un sous-marin qui s'appelle le sous-marin Kursk. Et c'est un sous-marin qui avait donc eu un accident au cours du lancement d'une torpille. Et malheureusement, donc, le sous-marin a coulé et les 110 membres d'équipage sont morts. Et ce drame, si vous voulez, s'est produit en temps de paix. Et là, on est en pleine guerre. Et le fait que le navire amiral de la flotte russe soit coulé comme ça, c'est un désastre, même si effectivement à Moscou on en parle peu.
Donc il faut effacer cette humiliation et le plus vite possible. Nous nous défendrons, promet de son côté Zelensky. L'Ukraine a vraiment les moyens de résister ?
Surtout elle a le moral, elle a la volonté de vaincre, parce que les Ukrainiens ils se battent pour leur peau. En fait ils sont prêts à mourir tous les jours. Les Russes, ils vont, je dirais pas à reculons, mais on a vu des images assez éloquentes de jeunes conscrits qui débarquaient en Ukraine alors qu'ils ne savaient même pas où ils étaient, qu'ils pensaient qu'ils étaient en manœuvre et ils sont là pour faire la guerre. Mais l'image que vous avez montrée ce soir, je trouvais extrêmement importante et impressionnante. C'est quand on voit le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, avec tout son état-major, là, on voit vraiment la force de l'armée russe. C'est-à-dire qu'on a ce quadrillon de généraux qui est vraiment déterminé à en découdre. Il faut savoir que Poutine vient de nommer un nouveau commandant en chef de l'opération en Ukraine, c'est le général Dvornikov, et qui était le patron des opérations de la guerre en Syrie. C'est lui qui a été l'homme qui a anéanti finalement la résistance syrienne, qui a anéanti des villes comme Alep, en les détruisant, comme les Russes essayent aujourd'hui de détruire Mariupol. Et donc le fait qu'il nomme un homme qui a été capable de tous ces crimes de guerre en Syrie et capable de le refaire en Ukraine, c'est ça le danger, parce que les rapports de force sont quand même très défavorables à l'Ukraine. Aujourd'hui, on a l'arrivée de 11 bataillons russes supplémentaires dans le Donbass. Avec ceux qui étaient déjà en place, ça fait à peu près 85-90 bataillons. Ça veut dire que c'est près de 100 000 hommes. Et en face, il y a quelques 100 000 Ukrainiens. Donc on va assister dans les semaines qui viennent à un face-à-face terrifiant et sans doute meurtrier. Parce que les Russes, non seulement sont aussi nombreux que les Ukrainiens, mais ils ont en plus beaucoup de canons, d'artillerie, des avions et des missiles de croisière qui peuvent bombarder. Et d'ailleurs, les images qu'on a vues, ça démontre qu'ils ont commencé effectivement à bombarder.
La Russie très armée, qui pourtant reproche aux Occidentaux de faire durer la guerre en aidant l'Ukraine par des livraisons d'armes. Comment est-ce qu'on doit interpréter cette nouvelle plainte de Vladimir Poutine ?
C'est une forme de mise en garde aux Occidentaux. C'est-à-dire, n'allez pas trop loin, parce que si vous allez trop loin, ça sera la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, il les met en garde en disant, d'ailleurs, si vous continuez à armer les Ukrainiens comme vous le faites, si vous dépassez la ligne rouge, alors on ne sait pas exactement quelle est la ligne rouge, mais on voit bien qu'il y a une forme de... comment dire, d'exaspération de la part de Poutine, qui voit qu'effectivement, il pensait arriver en Ukraine en libérateur, entre guillemets. Il voulait faire de l'Ukraine, finalement, une province russe. Il voulait faire comme la Crimée, annexer l'Ukraine et éradiquer la culture ukrainienne, liquider les élites et l'armée. Et là, il se trouve face à une résistance assez impressionnante et qui était totalement imprévue. Et donc, quand il voit que les Occidentaux continuent à armer les Ukrainiens, et il a raison de dire, d'une certaine manière, que l'aide occidentale prolonge la guerre, mais je dirais moi qu'elle prolonge surtout la résistance à une invasion d'un pays
qui n'en avait rien demandé. Comme des il veut nous considérer l'Occident comme des co-belligérants, en fait, c'est ça
Il aimerait pouvoir le faire, mais franchement, il n'a pas forcément intérêt, parce que lui non plus ne souhaite pas forcément une troisième guerre mondiale, mais on voit bien que la ligne de crête est très, 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 très faible, et donc ça pourrait basculer d'un moment à un autre. Pour l'instant, on ne franchit pas le pas, et surtout parce que les Européens, Macron comme les autres, veulent vraiment faire attention à ne pas déclencher un conflit hors de l'Ukraine.
La Russie qui a connu des pertes terribles
sur le plan humain. On ne les a pas chiffrés exactement, mais enfin, on sait que c'est... Il y a eu plusieurs chiffres qui ont circulé de la part du Pentagone. 10 000, 15 000 militaires morts, ce qui est considérable dans ce laps de temps. Où sont les morts? Est-ce que la Russie a vu ces morts revenir du théâtre de combat?
On a vu des morgues qui ont été déployées
en Ukraine
par les Russes, mais c'est un secret militaire. Même les familles des combattants, par exemple, on parlait du bateau du croiseur Moskva. Officiellement, il n'y a pas de nombre de victimes, même dans ce que les Russes ont appelé une explosion et même pas un tir de missile. Donc tout ça, ça fait partie effectivement des secrets défense. Mais les familles parlent, c'est assez étonnant parce qu'en Russie, il y a déjà eu des témoignages de mères qui ont dit « mon fils est parti il y a quelques mois et puis en fait on m'a appris qu'il était mort, mais on m'a pas dit ni où ni comment, mais en fait tout le monde sait qu'il est mort en Ukraine ». Donc oui, Poutine essaie de cacher le nombre de victimes, de soldats morts, mais ce qui est vrai, c'est qu'en 10 ans de guerre en Afghanistan, il y a eu à peu près 16 000 morts russes, et là on est effectivement à 55 jours et on est quasiment au même montant. C'est-à-dire que la proportion est effrayante. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une campagne extrêmement meurtrière. Mais franchement, la propagande russe ne l'indique absolument pas. C'est-à-dire que pour Poutine, l'opération suit son cours, les objectifs sont atteints. Et le 9 mai, il veut effectivement, semble-t-il, vouloir célébrer au moins une victoire. Alors, on voit mal comment entre aujourd'hui, le 19 avril, et le 9 mai, il pourrait conquérir le Donbass. Ça paraît pratiquement impossible parce que on voit la résistance à Mariupol, par exemple. C'est un siège... historique, enfin, qui va rester dans l'histoire, certainement comme une grande bataille, mais c'est presque c'est 7 semaines de siège à Mariupol. On peut imaginer qu'il y ait des Mariupol dans le Donbass, à Slovansk ou ailleurs, et donc s'il y a des petits Mariupol partout, ça va être un désastre, à la fois humanitaire d'abord, bien sûr, mais aussi sur le plan militaire et sur le plan de l'opinion publique, des opinions publiques. Et plus on s'enfonce dans la guerre, plus ça incite éventuellement les Occidentaux à augmenter leur aide. Le niveau des armes que l'on fournit, aujourd'hui, vous savez, on fournit des tanks, des blindés. Au début de la guerre, on parlait uniquement de lance-missiles. Donc il y a une montée en puissance de la guerre qui est un peu inquiétante d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on peut se demander si Poutine n'arrive pas à vraiment avoir une victoire significative, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne serait pas capable d'employer des armes encore plus meurtrières? Et on pense évidemment aux armes chimiques. Et pourquoi pas éventuellement à une arme nucléaire. Ça paraît totalement fou, mais qui aurait pu imaginer que cette guerre puisse être déclenchée? Quand même, ça fait 55 jours. Et moi, personnellement, j'y pense chaque jour, je suis effrayé. Je ne comprends pas et je ne peux pas m'expliquer qu'on ait pu arriver à ces atrocités, à ces combats quotidiens à 2h30 de Paris, alors que l'Ukraine, certes, n'est pas un pays qui avait... Les Ukrainiens ne sont pas des enfants de cœur non plus. Mmh. Et ils ont certainement bloqué aussi les négociations sur le Donbass. Mais enfin, de là à justifier une guerre, jamais on aurait pu y penser et personne ne le pensait vraiment.
L'utilisation des armes chimiques, c'est ce que craint aussi Volodymyr Zelensky, qui lui a parlé de génocide. Il a invité d'ailleurs Emmanuel Macron une nouvelle fois à venir à Kiev pour se rendre compte, ce à quoi le président a répondu, c'était hier sur le plateau de C'est à vous.
J'irai à Kiev, je retournerai à Kiev, mais j'y retournerai pour apporter quelque chose d'utile, pas simplement pour témoigner d'un soutien, parce qu'il est évident, j'ai pas besoin d'aller à Kiev pour témoigner de ce soutien. J'ai parlé pas une quarantaine de fois au président Zelensky depuis le début du conflit, je lui ai encore parlé la semaine dernière. Donc ce soutien, il est acquis, il est acté, il est constant, mais si je vais à Kiev, c'est pour essayer de changer la donne. Et donc c'est là-dessus que je travaille depuis des semaines et que je continuerai de travailler. Ce n'est pas simplement pour marquer un soutien symbolique.
Il a raison, il fait une erreur en ne se rendant pas à Kiev.
Il ne pouvait pas se rendre à Kiev parce que c'était d'abord c'était dangereux. Imaginez qu'il y ait eu un bombardement du train dans lequel se trouvait Macron ou bien qu'il y ait eu un incident, c'est dangereux. Et surtout, effectivement, à quoi sert une visite à Kiev si ce n'est peut-être effectivement afficher son soutien? C'est déjà important. Mais ce que veut dire le président là, semble-t-il, c'est qu'il veut y aller en étant utile. C'est-à-dire pas simplement pour serrer la main de Zelensky, mais effectivement peut-être pour apporter quelque chose. Alors la question est posée. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on dit qu'il ira à Kiev si le président Zelensky lui en fait la demande, expressément. Pourquoi? Parce que Macron a été accusé au cours des dernières semaines, finalement, de trop parler avec Poutine. Et ça n'a pas
de macroner,
servi.
C'est l'expression de macroner,
Et c'est vrai que, même des chefs de gouvernement, comme le président du Conseil italien, a dit finalement, je m'interroge sur l'utilité de...
Sur l'efficacité de dialoguer avec Poutine.
Mais jusqu'à présent, Zelensky a toujours dit qu'il soutenait la démarche de Macron.
Oui, c'est ça.
Et donc, quand Zelensky dit à Macron, ça serait utile d'y aller, on peut imaginer qu'il irait pour, par exemple, effectivement, apporter une aide supplémentaire, annoncer un blocus. Une fois l'élection du 24 avril passée, quel que soit le gagnant, il y aura un changement de la donne. C'est-à-dire que si Marine Le Pen était élue, ça changerait du tout au tout la nature des relations entre l'Ukraine et l'Europe et la France. Et si Macron était réélu, alors il faudrait effectivement qu'il s'engage encore plus. Et on peut imaginer que là, il irait à Kiev, peut-être pour annoncer peut-être un blocus du gaz et du pétrole russe, parce que la France y est favorable. Mais n'oublions pas une chose. Pourquoi n'est-il pas allé aussi? Parce que ce n'était pas simplement Macron qui irait.
C'était le président de l'Union européenne.
Il représenterait tous les Européens. Or, il y avait des Européens qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce voyage. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que le voyage était envisagé, il a été étudié, et on s'est demandé si c'était bien ou pas de le faire, et quelle serait l'utilité, effectivement, pour essayer de...
Le bénéfice d'amener, en quelque sorte.
Oui, mais peut-être surtout d'amener un résultat concret, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut obtenir un cessez-le-feu? C'est la priorité absolue. Et lorsqu'on a demandé si, par exemple, Macron pourrait aujourd'hui téléphoner à Poutine, la réponse a été « mais aujourd'hui, Poutine n'est pas en mesure d'accepter l'idée d'un cessez-le-feu, donc à quoi ça sert ?» Donc on voit qu'il y a aussi une sorte de choc de réalité à l'Élysée. On se rend bien compte que parler avec Poutine, ça peut être utile à certains moments, mais malheureusement, dans le contexte actuel, Poutine est un homme qui veut la guerre, qui veut soumettre l'Ukraine, et c'est très difficile de parler avec un dictateur.
Vous restez avec nous, Lise Gosset, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Faisons ça.
Mathieu, bonsoir. La plateforme de livraison de repas Deliveroo condamnée par la justice.
Oui, une condamnation à 375 000 euros d'amende pour travail dissimulé, de la prison avec sursis aussi pour deux anciens dirigeants. Pour bien comprendre, le tribunal correctionnel de Paris juge Deliveroo responsable d'une instrumentalisation et d'un détournement de la régulation du travail. Comprenez que la plateforme fait travailler des livreurs indépendants pour réduire ses frais. Or, ces livreurs seraient en réalité des employés. Parmi la centaine de parties civiles, cet ancien de Deliveroo, rencontré par Camille Schmitt et Anaïs Recouli, aujourd'hui, il a fondé un collectif de livreurs indépendants.
Faire croire qu'on était indépendant à des jeunes travailleurs qui n'avaient pas forcément de conscience du code du travail, de la loi, ils y croyaient. On les payait, ils faisaient un travail comme ils auraient pu faire dans n'importe quelle entreprise, et puis ils étaient payés pour ça. On ne travaille pas comme des indépendants. On était dirigés, on était contrôlés, on était sanctionnés. Donc à partir de là, c'est ça qu'on appelle la subordination. Et c'est cette subordination qui fait qu'un travailleur, il est ou salarié, s'il l'est subordonné, ou indépendant, s'il ne l'est pas. Donc à partir de là, la justice, le tribunal a bien compris que dans les détails des pièces qu'on a fournies, qu'on n'était pas du tout indépendant. C'était une escroquerie, en fait, cette indépendance.
C'est en fait le premier procès pénal de l'ubérisation en France. Gurvan Kristanajadja est journaliste à Libération. Il a publié Ubérisation, piège à con. Et Michael Robert lui a posé la question, finalement, du modèle économique de ces plateformes.
C'est la première fois qu'une plateforme est poursuivie au pénal et condamnée. Jusqu'à présent, les condamnations se faisaient surtout au prud'homme. Donc c'est en fait le système, le modèle de l'ubérisation qui est poursuivi, et non pas des cas isolés. Ça fait 7 ans que Deliveroo est en France, 10 ans que Uber est en France également, et pour l'instant il n'y a pas eu de débat sur est-ce qu'on voulait ou pas de l'ubérisation de notre société, est-ce que c'est vraiment un progrès. À partir du moment où ce sont des entreprises qui ne sont pas rentables et qui ont recours à des travailleurs indépendants pour réduire leurs coûts, ça a pour conséquence de précariser, de créer des poches en fait de sous-traitance, et parfois de précaires qui vont travailler dans des conditions délétères. On peut se dire globalement que ça a atteint ses limites et qu'on ne veut pas avoir ça dans nos rues.
Le statut des Deliveroo, Uber et autres plateformes est-il remis en cause? Pour l'instant, chez Deliveroo, on fait savoir que l'on envisage de faire appel.
L'ONU et de nombreuses ONG dénoncent l'accord conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda pour expulser des demandeurs d'asile.
Oui, Londres et Kigali se sont mis d'accord. Les 28 000 personnes pénétrant illégalement le Royaume-Uni chaque année sont désormais susceptibles d'être renvoyées au Rwanda, le pays d'Afrique qui accepte d'accueillir ces demandeurs d'asile, de traiter leurs demandes de A à Z en échange de 120 millions de livres, 144 millions d'euros par an. À l'origine, c'était une rumeur, et regardez déjà le ministre chargé de la question qui avait du mal à assumer.
Lord Harrington possibly justify the idea of sending migrants to Rwanda.
Well, we haven't sent any refugees to.
No, but you're thinking of doing it. That's the point. For people who are coming over from Calais, maybe.
Why is that a rumour?
I saw it in the Times today. That is what is going to be announced in the next few days.
Well,
by the Prime Minister.
If it's happening in the Home Office on the same corridor that I'm in, they haven't told me about it.
C'est quand même extraordinaire.
C'est Boris Johnson lui-même qui assume son quoi qu'il en coûte anti-immigration.
Today, our new migration and economic development partnership will mean that anyone entering the UK illegally, as well as those who have arrived illegally since January the 1st, may now be relocated to Rwanda.
Polémique au Royaume-Uni et pas seulement, les Nations Unies dénoncent cet accord, accord en contradiction avec les règles internationales du droit d'asile. Les télévisions anglaises sont allées en parler avec des réfugiés justement avant qu'ils n'arrivent en Angleterre, donc chez nous, à Calais.
If they take us to Africa, what are we going to do there? There is no future for us in Africa. We are from Afghanistan. I was trying to become a translator.
The war has been started from since 20th century in Afghanistan. And they are suffering too much. And now in Ukraine, this is just started and everyone is just thinking about Ukrainian people. This is not fair for us.
Des recours en justice sont en préparation outre-Manche. Des fonctionnaires annoncent qu'ils n'entendent pas exécuter cette procédure. Et en Angleterre, c'est même une autorité morale qui s'est insurgée contre cet accord, l'archevêque de Canterbury, lors de son sermon de Pâques.
Even to a country that seeks to do well, like Rwanda, is the opposite of the nature of God, who himself took responsibility for our failures.
Ça paraît étonnant, en tout cas comme mesure, Ulysse Gosset, c'est un euphémisme que de renvoyer des demandeurs d'asile de Londres au Rwanda.
Oui, non, mais c'est vrai que l'attitude de Boris Johnson est choquante, mais je reviens à l'Ukraine. Il y a aujourd'hui 5,2 millions de réfugiés ukrainiens. C'est plus que dans toutes les autres vagues d'immigration. On pense à la Syrie, notamment aux 1,5 million de migrants qui ont été accueillis en Allemagne par Angela Merkel. Donc, pour beaucoup de gens à l'extérieur de l'Europe, et notamment dans les pays africains au Moyen-Orient, ce qui se passe est choquant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que la Pologne accueille des centaines de milliers de personnes, 1,5 million, 2 millions de réfugiés en Pologne, en Roumanie, en Europe. On accueille les Ukrainiens à bras ouverts. Et qu'est-ce qu'on fait pour les autres réfugiés? Et donc, en fait, c'est choquant pour les pays du tiers-monde, en particulier, de voir comment les Européens accueillent des migrants qui viennent d'Europe, d'Ukraine, et comment on a une forme de ségrégation entre les migrants. Donc, il y a de quoi s'interroger, et peut-être que ce qui se passe en Ukraine fera changer le regard des Français à l'égard des migrants.
Une dernière image, Mathieu.
Très rapidement, le premier kebab dans l'espace. Oui, vous avez bien entendu, c'est l'idée d'un restaurateur turc pour fêter les 61 ans du premier vol habité dans l'espace. Ballon gonflé à l'hélium, vous voyez, alors il y a eu débat à la rédaction, est-ce que c'est un kebab, est-ce que c'est un kefta? En tout cas, ce Turc a pu récupérer la brochette à son retour sur la planète Terre.
Elle était dans quel état? Il y aura d'autres vols. Oh, merci pour cette bien belle image, cher Mathieu. Merci beaucoup Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement National. Merci beaucoup Ulysse Gosset, éditorialiste spécialiste des questions internationales à BFM TV. Ravi de votre présence ce soir sur le plateau, c'est à vous. A tout de suite pour le dîner, les actualités de Bertrand. Il sera de retour. La story immédiate de Mohamed et l'œil de Pierre et nos invités du dîner, bien sûr. On vous attend, Nathalie Baye.